Chapitre 6. Des miracles. De même que les hommes appellent divine toute science qui surpasse la portée de l'esprit humain, ils voient la main de Dieu dans tout phénomène dont la cause est généralement ignorée. Le vulgaire, en effet, est persuadé que la puissance et la providence divine n'éclatent jamais si visiblement que lorsqu'il arrive dans la nature quelque chose d'extraordinaire et qui choque les idées reçues, surtout si l'événement tourne au profit et à l'avantage des hommes. Aussi, rien ne prouve plus clairement aux yeux du peuple l'existence de Dieu que l'interruption soudaine de l'ordre de la nature. Et de là vient que ceux qui expliquent toutes choses, et même les miracles par des causes naturelles et s'efforcent de les comprendre, sont accusés de nier Dieu, ou du moins la providence de Dieu. Tant que la nature suit son cours ordinaire, on s'imagine que Dieu ne fait rien. Et réciproquement, pendant que Dieu agit, la puissance de la nature semble suspendue et ses forces oisives, de façon qu'on établit ainsi deux puissances distinctes l'une de l'autre, celle de Dieu et celle de la nature, laquelle toutefois est déterminée par Dieu d'une certaine façon, ou, comme la plupart le croient maintenant, créée par lui. Mais qu'entend-on par chacune de ces puissances, Dieu et la nature? Voilà ce que le vulgaire ne sait pas. La puissance de Dieu, c'est pour lui quelque chose comme l'autorité royale. La nature, c'est une force impétueuse et aveugle. Le vulgaire donne donc au phénomène extraordinaire de la nature le nom du miracle, c'est-à-dire d'ouvrage de Dieu, et soit par dévotion, soit en haine de ceux qui cultivent les sciences naturelles, il se complaît dans l'ignorance des causes et ne veut entendre parler que de ce qu'il admire, c'est-à-dire de ce qu'il ignore. Le seul moyen pour lui d'adorer Dieu et de rapporter toutes choses à son empire et à sa volonté, c'est de supprimer les causes naturelles, de bouleverser l'ordre des choses, et de se représenter la puissance de la nature enchaînée par celle de Dieu. Si l'on cherche l'origine de ces préjugés, il faut, à ce qu'il me semble, remonter jusqu'au premier hébreu. On sait que les nations païennes de cette époque adoraient des dieux visibles comme le soleil, la lune, la terre, l'eau, l'air, etc. Pour les convaincre d'erreur, pour leur montrer que ces divinités faibles et changeantes étaient sous l'empire d'un dieu invisible, les hébreux racontaient les miracles dont ils avaient été témoins, s'efforçant de prouver en outre par ces récits que le Dieu qu'ils adoraient gouvernait la nature entière pour leur seul avantage. Cet exemple a séduit si fortement les hommes qu'ils n'ont pas cessé depuis lors d'imaginer les miracles. Chaque nation a voulu faire croire qu'elle est plus chère à Dieu que toutes les autres, que Dieu a tout créé pour elle et qu'il dirige tout vers cet unique dessein. Voilà l'excès d'arrogance où la stupidité du vulgaire s'est portée. Dans la grossièreté de ses idées touchant Dieu et la nature, il confond les volontés de Dieu avec les désirs des hommes et se représente la nature si bornée que l'homme en est la partie principale. Mais c'est assez parler des opinions et des préjugés du vulgaire sur la nature et les miracles. J'arrive aux quatre principes que je me propose de démontrer ici dans l'ordre suivant. Premièrement, j'établirai d'abord que rien n'arrive contre l'ordre de la nature et qu'elle suit sans interruption un cours éternel et immuable. J'expliquerai en même temps ce qu'il faut entendre par miracle. Deuxièmement, je prouverai que ce ne sont point les miracles qui peuvent nous faire connaître l'essence et l'existence de Dieu, ni par conséquent sa providence. Toutes ces vérités se comprenant beaucoup mieux par l'ordre constant et immuable de la nature. Troisièmement, je prouverai par plusieurs exemples tirés de l'Écriture que l'Écriture elle-même n'entend rien autre chose par les décrets, les volontés de Dieu, et conséquemment par sa providence, que l'ordre même de la nature qui résulte nécessairement de ces éternelles lois. Je traiterai en dernier lieu de la manière d'interpréter les miracles de l'Écriture et marquerai les points principaux qu'il convient de considérer dans le récit de ces miracles. Tels sont les divers objets qui feront la matière du présent chapitre, et si je ne me trompe, il n'en est pas un qui ne doive beaucoup servir au dessein que je me propose dans tout cet ouvrage. Pour établir mon premier principe, il me suffit de rappeler ce que j'ai démontré au chapitre 4 sur la loi divine, savoir que tout ce que Dieu veut ou détermine enveloppe une nécessité et une vérité éternelle. L'entendement de Dieu ne se distinguant pas, nous l'avons prouvé, de sa volonté, dire que Dieu veut une chose ou dire qu'il la pense, c'est affirmer exactement la même chose. En conséquence, la même nécessité en vertu de laquelle il suit de la nature et de la perfection de Dieu qu'il pense une certaine chose telle qu'elle est, cette même nécessité, dis-je, fait que Dieu veut cette chose telle qu'elle est. Or, comme rien n'est nécessairement vrai que par le seul décret divin, il est évident que les lois universelles de la nature sont les décrets mêmes de Dieu, lesquels résultent nécessairement de la perfection de la nature divine. Si donc un phénomène se produisait dans l'univers qu'il fit connaître aux lois générales de la nature, il serait également contraire au décret divin, à l'intelligence et à la nature divine. Et de même, si Dieu agissait contre les lois de la nature, il agirait contre sa propre essence, ce qui est le comble de l'absurdité. Je pourrais appuyer encore ma démonstration sur ce principe que la puissance de la nature n'est en réalité que la puissance même et la vertu de Dieu, laquelle est le propre fond de l'essence divine. Mais ce surcroît de preuve est présentement superflu. Je conclus donc qu'il n'arrive rien dans la nature qui soit contraire à ces lois universelles. Rien, dis-je, qui ne soit d'accord avec ces lois et qui n'en résulte. Tout ce qui arrive se fait par la volonté de Dieu et son éternel décret. En d'autres termes, tout ce qui arrive se fait suivant des lois et des règles qui enveloppent une nécessité et une vérité éternelle. Ces lois et ces règles, bien que toujours nous ne les connaissions pas, la nature les suit toujours et par conséquent, elle ne s'écarte jamais de son cours immuable. Or, il n'y a point de bonne raison d'imposer une limite à la puissance et à la vertu de la nature et de considérer ces lois comme appropriées à telle fin déterminée et non à toutes les fins possibles. Car la puissance et la vertu de la nature sont la puissance même et la vertu de Dieu. Les lois et les règles de la nature sont les propres décrets de Dieu. Il faut donc croire que de toute nécessité, que la puissance de la nature est infinie et que ces lois sont ainsi faites qu'elles s'étendent à tout ce que l'entendement divin est capable d'embrasser. Nier cela, c'est soutenir que Dieu a créé la nature si impuissante et lui a donné des lois si stériles qu'il est obligé de venir à son secours s'il veut qu'elle se conserve et que tout s'y passe au gré de ses vœux. Doctrine aussi déraisonnable qu'il s'en puisse imaginer. Maintenant qu'il est bien établi que rien n'arrive dans la nature qui ne résulte de ses lois, que ces lois embrassent tout ce que l'entendement divin lui-même est capable de concevoir, enfin, que la nature garde éternellement un ordre fixe et immuable, il s'ensuit très clairement qu'un miracle ne peut s'entendre qu'au regard des opinions des hommes et ne signifie rien autre chose qu'un événement dont les hommes, ou du moins celui qui raconte le miracle, ne peuvent expliquer la cause naturelle par analogie avec d'autres événements semblables qu'ils sont habitués à observer. Je pourrais définir aussi le miracle, ce qui ne peut être expliqué par les principes des choses naturelles, telles que la raison nous les fait connaître. Mais comme les miracles ont été faits pour le vulgaire, lequel était dans une ignorance absolue des principes des choses naturelles, il est certain que les anciens considéraient comme miraculé tout ce qu'ils ne pouvaient expliquer de la façon dont le vulgaire explique les choses, c'est-à-dire en demandant à sa mémoire le souvenir de quelque événement semblable qu'on ait l'habitude de se représenter sans étonnement, car le vulgaire croit comprendre suffisamment une chose quand elle a cessé de l'étonner. Les anciens donc, et tous les hommes en général jusqu'à notre temps, ou peu s'en faut, n'ont point eu d'autre critérium des événements miraculeux que celui que je viens de dire. Il ne faut par conséquent pas douter que dans les Saintes Écritures, il y ait une foule de choses miraculeuses qui s'expliquent très simplement par les principes aujourd'hui connus des choses naturelles. C'est ce que nous avons déjà fait présenter plus haut à propos du miracle de Josué arrêtant le soleil et de la rétrogradation de ce même astre au temps d'Achaz. Mais nous traiterons bientôt plus au long cette matière de l'interprétation des miracles qui fait en partie l'objet de ce chapitre. Je veux établir maintenant mon second principe, qui est que les miracles ne font nullement comprendre ni l'essence, ni l'existence, ni la providence de Dieu, mais au contraire que toutes ces vérités nous sont manifestées d'une façon beaucoup plus claire par l'ordre fixe et immuable de la nature. Voici ma démonstration. L'existence de Dieu n'étant pas évidente d'elle-même, il faut nécessairement qu'on la déduise de certaines notions dont la vérité soit si ferme et si inébranlable qu'il n'y ait aucune puissance capable de les changer. Tout au moins faut-il que ces notions nous apparaissent avec ce caractère de certitude absolue au moment où nous en afférons l'existence de Dieu. Sans quoi, nous ne pourrions aboutir à une conclusion parfaitement assurée. Il est clair en effet que si nous venions à supposer que ces notions peuvent être changées par une puissance quelconque, nous douterions à l'instant même de leur vérité. Nous douterions de l'existence de Dieu qui se fonde sur elles. En un mot, il n'y a rien au monde dont nous puissions être certains. Maintenant, à quelles conditions disons-nous qu'une chose est conforme à la nature ou qu'elle y est contraire? À condition qu'elle soit conforme ou contraire à ses notions premières. Si donc nous venions à supposer que, par la vertu d'une certaine puissance, quelle qu'elle soit, il se produit dans la nature une chose contraire à la nature, il faudrait concevoir cette chose comme contraire aux notions premières, ce qui est absurde. À moins qu'on ne veuille douter des notions premières et par conséquent de l'existence de Dieu et de toute chose, de quelque façon que nous le percevions. Il s'en faut donc infiniment que les miracles, si l'on entend par ce mot un événement contraire à l'ordre de la nature, nous découvrent l'existence de Dieu. Loin de là, il nous en ferait douter, puisque nous pourrions être absolument certains qu'il existe un Dieu en supprimant tous les miracles. Je veux dire en étant convaincu que toute chose suivra l'ordre déterminé et immuable de la nature. Supposons maintenant qu'on définisse le miracle, ce qui est inexplicable par les causes naturelles, ou bien on entend que le miracle a au fond des causes naturelles, mais telles que l'intelligence humaine ne les peut découvrir, ou bien que le miracle n'a d'autre cause que Dieu ou la volonté de Dieu. Or, comme tout ce qui se fait par des causes naturelles se fait aussi par la seule puissance et la seule volonté de Dieu, il faut nécessairement en venir à dire que le miracle, soit qu'il ait des causes naturelles, soit qu'il n'en ait pas, est une chose qui ne peut s'expliquer par une cause, c'est-à-dire une chose qui surpasse l'intelligence humaine. Or, une chose qui surpasse l'intelligence humaine ne peut rien nous faire comprendre, car tout ce que nous comprenons clairement et distinctement, ou bien nous le concevons par soi-même, ou bien par quelque autre chose qui de soi se comprend d'une façon claire et distincte. Par conséquent, un miracle, c'est-à-dire une chose qui surpasse l'intelligence humaine, ne peut nous faire comprendre l'essence et l'existence de Dieu, ni rien nous apprendre absolument de Dieu et de la nature. Au contraire, quand nous savons que toutes choses sont déterminées et réglées par la main divine, que les opérations de la nature résultent de l'essence de Dieu, et que les lois de l'univers sont ses décrets et ses volontés éternelles, nous connaissons alors d'autant mieux Dieu et sa volonté que nous pénétrons plus avant dans la connaissance des choses naturelles, que nous les voyons dépendre plus étroitement de leur première cause et se développer suivant les éternelles lois qu'elle a données à la nature. Il suit de là qu'au regard de notre intelligence, les phénomènes que nous comprenons clairement et distinctement méritent bien plutôt qu'on les appelle « ouvrages de Dieu » et qu'on les rapporte à la volonté divine que ces miracles qui nous laissent dans une ignorance absolue, bien qu'ils occupent fortement l'imagination des hommes et les frappent d'étonnement et d'admiration. Car enfin, il n'y a dans la nature que les choses où nous avons une connaissance claire et distincte qui nous élèvent à une connaissance plus sublime de Dieu et nous manifestent en très éclatant sa volonté et ses décrets. C'est donc véritablement se jouer quand on ignore une chose que de recourir à la volonté de Dieu. On ne fait par là que confesser très ridiculement son ignorance. Un miracle, en effet, n'étant jamais qu'une chose limitée et n'exprimant par conséquent qu'une puissance également limitée, il est certainement impossible de remonter d'un effet de cette nature à l'existence d'une cause infiniment puissante. Tout au plus a-t-on le droit de conclure qu'il existe une cause plus grande que l'effet produit. Je dis tout au plus car il peut arriver que, par le concours de plusieurs causes, un effet se produise dont la puissance, tout en restant inférieure à celle de toutes ces causes réunies, soit très supérieure à la force de chacune d'elles. Au contraire, les lois de l'univers, ainsi que nous l'avons déjà montré, s'étendant à une infinité d'objets, et se faisant concevoir sous un certain caractère d'éternité, la nature qui se développe en suivant ces lois dans un ordre immuable, est pour nous comme une manifestation visible de l'infinité, de l'éternité et de l'immutabilité de Dieu. Concluons donc que les miracles ne nous font nullement connaître Dieu, ni son existence, ni sa providence, mais que toutes ces vérités se déduisent infiniment mieux de l'ordre fixe et immuable de la nature. En concluant de la sorte, j'entends par miracle ce qui surpasse ou ce qu'on croit qui surpasse la portée de l'intelligence humaine. Car si l'on appelle miracle un bouleversement de l'ordre de la nature, ou une interruption de son cours, ou un fait qui contrarie ses lois, il faut dire alors non plus seulement qu'un miracle ne pourrait donner aucune connaissance de Dieu, mais qu'il irait jusqu'à détruire celle que nous avons naturellement, et à nous faire douter de Dieu et de toute chose. Je ne reconnais ici aucune différence entre un phénomène contraire à la nature et un phénomène au-dessus de la nature, par où l'on entend un phénomène qui, sans être contraire à la nature, ne peut être produit ou effectué par elle. Un miracle, en effet, ne s'accomplissant pas hors de la nature, mais dans la nature elle-même. On a beau dire qu'il est seulement au-dessus d'elle, il faut nécessairement qu'il en interrompe le cours. Or, d'un autre côté, nous concevons le cours de la nature comme fixe et immuable par les propres décrets de Dieu. Si donc un phénomène se produisait dans la nature qui ne fût point conforme à ses lois, on devrait admettre de toute nécessité qu'il leur est contraire et qu'il renverse l'ordre que Dieu a établi dans l'univers en lui donnant des lois générales pour le régler éternellement. D'où il faut conclure que la croyance au miracle devrait conduire au doute universel et à l'athéisme. Je considère donc mon second principe comme parfaitement établi. C'est à savoir qu'un miracle, de quelque façon qu'on l'entende, contraire à la nature ou au-dessus d'elle, est purement et simplement une absurdité. Et qu'il ne faut avoir, et qu'il ne fait voir dans les miracles des Saintes Écritures que des phénomènes naturels qui surpassent, ou qu'on croit qu'ils surpassent, la portée de l'intelligence humaine. Mais avant d'arriver à mon troisième point, je veux confirmer par l'Écriture cette doctrine que les miracles ne nous font point connaître Dieu. L'Écriture ne dit cela nulle part d'une manière expresse, mais on le peut inférer de plusieurs passages, notamment de celui où Moïse, Deutéronome chapitre 13, ordonne de punir de mort les faux prophètes, alors même qu'ils font des miracles. Voici ses paroles. « Et bien que vous voyez apparaître le signe, le prodige qu'il vous a prédit, etc., gardez-vous de croire pour cela aux paroles de ce prophète, etc., parce que le Seigneur votre Dieu veut vous tenter, etc., condamnez donc ce prophète à mort, etc. » Il résulte clairement de ce passage que les faux prophètes font aussi des miracles, et que si les hommes étaient solidairement prémunis par une connaissance véritable et un véritable amour de Dieu, les miracles pourraient leur faire adorer également les faux dieux et le vrai Dieu. Moïse ajoute en effet, « Car Jéhovah, notre Dieu, vous tente pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur et de toute votre âme. » Une autre preuve que tous ces miracles, en si grand nombre, ne pouvaient donner aux Israélites une idée saine de Dieu, c'est ce qui arriva quand ils crurent que Moïse les avait quittés. Ils demandèrent à Aaron des divinités visibles, et j'ai honte de le dire, ce fut un veau qui leur représenta le vrai Dieu, tant de miracles n'ayant abouti qu'à leur en donner pareille idée. On sait qu'Azaph, qui avait été témoin d'un si grand nombre de prodiges, douta de la providence de Dieu, et il se serait même écarté de la bonne voie s'il n'avait enfin compris la béatitude véritable. Voyez psaume 37. Salomon lui-même, et de son temps la prospérité des Hébreux était à son comble. Salomon a laissé échapper ce soupçon que toutes choses sont livrées au hasard. Voyez Ecclésiaste, chapitre 3, verset 19, 20, 21, chapitre 9, verset 2, 3, etc. Enfin, ça a été, pour presque tous les prophètes, un mystère plein d'obscurité que l'accord qui existe entre la providence de Dieu, telle qu'il a concevée, et l'ordre de la nature et les événements de leur vie humaine. Or, cet accord a toujours été parfaitement visible pour les philosophes qui s'efforcent de comprendre les choses par des notions claires et non par des miracles, qui font consister la félicité véritable dans la seule vertu et dans la tranquillité de l'âme, qui enfin veulent obéir à la nature et non pas la faire obéir, parce qu'ils savent, de science certaine, que Dieu dirige la nature suivant des lois universelles et non pas suivant les lois particulières de la nature humaine, en un mot que Dieu n'est pas seulement le Dieu du genre humain, mais le Dieu de la nature entière. Je conclus donc de tout ce qui précède que d'après l'Écriture elle-même, les miracles donnent moins de Dieu une connaissance vraie, ni de sa providence un clair témoignage. Je sais bien qu'il est souvent dit dans l'Écriture que Dieu a fait des prodiges pour se faire connaître aux hommes. Ainsi, dans l'Exode, chapitre 10, verset 2, Dieu trompe les Égyptiens et donne des signes de son existence afin que les Israélites sachent qu'il est le vrai Dieu. Mais il ne résulte point de là que les miracles soient les témoignages de l'existence de Dieu. Il en résulte seulement que les Juifs avaient de telles opinions qu'ils pouvaient être facilement convaincus par des miracles de cette sorte. Nous avons en effet démontré dans notre chapitre 2 que les preuves prophétiques, c'est-à-dire les preuves tirées de la révélation, ne se fondent pas sur les notions universelles et communes à tous les hommes, mais sur les idées reçues, quoique absurdes, et sur les opinions de ceux qui reçoivent la révélation que le Saint-Esprit veut convaincre. Doctrine que nous avons confirmée par un grand nombre d'exemples, et même par le témoignage de Paul qui a été grec avec les grecs et juif avec les juifs. Du reste, si tous ces miracles avaient le don de convaincre les Égyptiens et les Hébreux en vertu de leurs idées habituelles, il n'en était pas moins capable de leur donner une idée véritable de Dieu. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de leur prouver qu'il existe une divinité plus puissante que toutes les choses qui tombaient sur leur connaissance, et que Dieu prenait un soin particulier des affaires des Hébreux qui étaient alors en effet très florissantes. Au lieu de s'occuper avec une égale sollicitude de tous les humains, ainsi que l'enseigne la philosophie, qui seule d'ailleurs peut démontrer qu'il en est ainsi. Voilà pourquoi les Juifs, et tous ceux qui ne connaissent la providence de Dieu que par l'état variable des choses humaines et l'inégalité des conditions, se sont persuadés que les Juifs étaient plus chers à Dieu que tous les autres peuples, quoiqu'ils ne les aient point surpassés en véritable perfection, comme nous l'avons démontré dans le chapitre 3.